Alors, de quelle manière, selon votre éclairage, Freud a-t-il créé les conditions de la psychanalyse pour enfants? Ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, qu'il n'avait pas exactement lui-même pratiqué la psychanalyse pour enfants, mais comment est-ce qu'il a rendu possible les conditions pour son invention?
Alors c'est vrai que Freud n'a pas analysé d'enfant lui-même, mais il a supervisé en quelque sorte la cure du petit Hans, qui a été un cas clinique tout à fait fondateur pour la psychanalyse de l'enfant. Alors dans des conditions un peu particulières, parce que c'était le début des choses, qu'il n'y avait pas de psychanalyse d'enfant, et que donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une analyse d'un enfant par son père, ça a quelque chose qui nous paraît invraisemblable. Mais enfin, Freud a aussi fait l'analyse de sa fille. Donc on était dans des temps un petit peu particuliers. C'est assez intéressant parce que au fond, Freud a supervisé l'analyse de ce cas. Les parents de Hans étaient médecins. Dans le cas du petit Hans, d'ailleurs, dès les premières pages, Freud le dit tout à fait ouvertement, c'était des collègues et des amis qui étaient acquis aux premières données de la psychanalyse qui commençaient à apparaître là, et qui avaient décidé d'élever Hans selon les principes, enfin, qui avaient l'air de se dégager à ce moment-là, notamment d'une certaine liberté au niveau de l'expression des fantasmes et des pulsions chez l'enfant, c'est-à-dire une éducation qui sortait un petit peu des normes autoritaires du 19e siècle. Et Freud, donc, de séance en séance, a travaillé sur le cas du petit Hans. Alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui l'a empêché par la suite de prendre lui-même des enfants en analyse, ça reste un peu mystérieux, c'est vrai. Hein. Mais il y a ensuite eu Anna Freud qui a poursuivi son travail. Est-ce qu'il a voulu, même si c'était compliqué pour lui, accepter une espèce de répartition des choses? Est-ce qu'il a pensé... Il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que l'analyse de l'enfant, d'ailleurs, reste marquée par le fait que les premières pionnières sont des femmes. Hein? Mais bon, moi, personnellement, je pense que, bien sûr, Freud est un homme du 19e siècle et bon, il est de la première partie du 20e. Enfin, il est marqué par le 19e siècle. Mais moi, je crois que Freud avait une liberté d'esprit extrêmement importante, que sous un personnage apparemment classique, il y avait au fond de lui des zones de liberté de pensée phénoménales. Et je ne vois pas du tout Freud en train de penser que l'analyse d'enfants était bonne pour les femmes et qu'il n'y avait pas. Moi, je pense que, après son expérience de la supervision du petit Hans, il a pu considérer que l'analyse d'un psychisme en formation était quelque chose d'incroyablement difficile. Que c'était possible, mais incroyablement difficile, et qu'il fallait probablement que la psychanalyse de l'adulte aille plus loin d'abord dans sa élaboration avant qu'on puisse se pencher sur cette question-là. Et vous savez qu'aujourd'hui, en France par exemple, aussi bien, je pense aux deux sociétés qui sont liées à l'Association psychanalytique internationale, c'est-à-dire la Société psychanalytique de Paris et l'Association psychanalytique de France dont je dépends moi, les deux sont encore extrêmement prudentes par rapport à la psychanalyse de l'enfant. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler. La psychanalyse de l'enfant n'a pas encore acquis absolument toutes ses lettres de noblesse en France. Dans d'autres pays, ça ne pose aucun problème. En France, ça continue à en poser. Et la formation des psychanalystes, pour l'instant, repose entièrement sur l'apprentissage de la technique de la cure avec des adultes. Il n'y a pas de cure d'enfant qui soit validante, ni à la Société psychanalytique de Paris, ni à l'Association psychanalytique de France. Personnellement, je pense que c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Là, je crois qu'on va y revenir parce que je suis. Alors là, l'héritage de Freud, si mon hypothèse est juste, qu'il n'a pas été plus loin dans l'analyse de l'enfant parce qu'il a considéré que le corpus psychanalytique n'était pas encore prêt à s'occuper d'un psychisme en formation, ce qui pose des problèmes techniques, théoriques et cliniques particuliers, eh bien je crois qu'aujourd'hui, au contraire, tout est prêt pour que la psychanalyse de l'enfant acquiert un statut complet. Et légal. Et je pense même personnellement que le bébé et le très jeune enfant vont beaucoup apporter à la théorie analytique en général et à l'interprétation en particulier. Je donne un exemple. Avec le bébé, on sait très bien, le très jeune enfant, que dans le langage, la partie qui le touche le plus au début, ce n'est pas forcément la signification, la charge symbolique du mot, mais c'est la musique du langage. C'est ce qu'on pourrait dire, pour dire vite, l'énonciation et pas seulement l'énoncé. Et aujourd'hui, la théorie de l'interprétation, quand il s'agit de l'adulte névrotique, porte presque exclusivement sur la structure de l'énoncé. Alors que tous les psychanalystes savent très bien qu'un même énoncé n'aura pas le même effet sur un patient selon son énonciation, selon le moment où l'énoncé est prononcé, sur la manière, la musique, le style, la voix, etc. Hein. C'est une clinique claire pour les psychanalystes, ça. Eh bien, aujourd'hui, le bébé va beaucoup nous apprendre là-dessus. Comment est-ce que la façon de dire touche l'autre ? Comment est-ce qu'en parlant, on peut changer quelque chose dans le monde interne de l'autre ? Hein, c'est pas simplement le message, c'est pas simplement l'énoncé, c'est aussi la façon de dire qui devient en quelque sorte un acte de langage, et pas simplement un message.